Je n'ai pas toujours dans la vie eu 50 ans, je ne me suis pas toujours levé avec une vieille voix et avec des vieux grognements pour aller être me planquer derrière un micro, je me souviens. Avoir 5 ans, aller à l'école, comme une première aventure, serrer fort la main de maman, se demander pourquoi on vous laisse là à l'entrée, qui sont ces autres enfants alors qu'on croyait être seul au monde. Avoir 10 ans, lâcher la main de maman, être fier, de marcher comme un grand, de poinçonner son ticket dans le bus, parce qu'à mon époque on poinçonnait son ticket dans le bus, être fier de son cartable, de ses copains, de ses rendez-vous à soi. Avoir 15 ans, aller à l'école comme un rendez-vous amoureux, avoir le cœur qui bat, espérer la récré, les petits mots qu'on passe sous la table, tu lui diras. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Avoir 20 ans, aller dehors, comme une guerre, comme un combat, être soi. Avoir 30, 40 ans, rentrer ou pas dans les rangs. Avoir des horaires, des obligations, des enfants, des amours, des vacances, des rêves. Avoir 50 ans. Ça, c'est moi, merde. Aïe. Mais c'est mieux qu'après. Allez, salut. Bonjour Thierry. Thierry Paré.
Salut Edouard.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non ?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird, Pouette-Pouette la hurlette, Tagada la queue du rat.
Bonjour à tous, vous échappez à une très belle imitation d'Atmen qui imite la une de Libé qui représente Trump qui lève le pouce. Atmen, vous l'imitez très très bien. Qu'est-ce qu'il fait Trump sur la photo ? Il fait quoi ?
Il fait chute comme ça. Il a un problème avec sa bouche, il fait toujours...
Vous lui ressemblez de plus en plus.
Ah bon ?
Oui, Thierry Paré.
Bah tiens, on peut démarrer avec Donald Trump qui en est persuadé. Tout le monde à Washington le remerciera d'avoir viré James Comey du FBI. En attendant, le New York Times affirme lui que quelques jours avant d'être débarqué, l'ex-patron de la police fédérale avait demandé au département de la justice une augmentation non négligeable en budget et en personnel pour enquêter sur l'interférence russe durant la campagne présidentielle américaine et sur des liens supposés entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. Le mouvement La République En Marche va dévoiler tout à l'heure les noms d'environ 450 candidats pour les prochaines élections législatives au lieu des 577 initialement annoncés. Alors Manuel Valls aimerait bien en être, l'ex-premier ministre. Il multiplie les appels du pied vers Macron au risque de perdre sa circonscription. Problème, sa candidature ne remplit pas les critères d'investiture du mouvement La République En Marche. Principal critère, c'est l'adhésion à ce mouvement. Or, Manuel Valls n'est pas adhérent à La République En Marche, il est adhérent au Parti Socialiste. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre pourrait être convoqué devant la commission des conflits du PS en vue d'une éventuelle exclusion. En fait, la procédure, elle a été lancée dès le mois dernier, le mois d'avril, lorsque Manuel Valls avait annoncé son soutien à Emmanuel Macron.
Alors, le mouvement, oui, il va s'appeler En Marche, même pour les législatives.
Non, La République En Marche.
C'est-à-dire que si je vote pas pour les républicains, ça veut dire que sans doute que je suis pas républicain. Si je vote pas pour les insoumis, ça veut sans doute dire que je suis soumis. Et si je vote pas pour En Marche, ça veut dire que je suis statique. Ah bah ils sont sympas la nouveauté des partis politiques cette année. Hein, je préfère encore les UDF, RPR, RMP,
la grande époque. Après Hénin Beaumont-Marseille, c'est donc dans la cité phocéenne que Jean-Luc Mélenchon pourrait se présenter aux législatives face au socialiste Patrick Mennucci. Il va le confirmer aujourd'hui. Plus précisément dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône. Reste à régler quelques modalités d'accueil sur fond de tension avec le parti communiste, des tensions plus à l'échelle nationale d'ailleurs que locale, puisque des accords ont déjà été passés entre les deux formations localement, et on pense notamment à la ville de Saint-Denis en région parisienne.
C'est comment une tension avec le Parti communiste ?
Ah, c'est, oui, ça doit y ressembler un peu à ça.
Je te dis que tu vas voter.
Je sais pas ce qui me retient de...
Tu vas, celle-là,
elle va partir. 39, c'est le nombre de manifestants tués au Venezuela. C'est pas très fun, hein. Depuis début avril, en fait, depuis le lancement des grandes manifestations d'opposition contre Nicolas Maduro.
39 qui est pas fun, c'est vrai. Général.
Hier, deux manifestants sont venus grossir le rang des victimes. Et la dernière manif à Caracas hier, donc au Venezuela, bien sûr, s'intitulait « La marche de la merde ». Les manifestants ont jeté des bouteilles remplies d'excréments sur les CRS locaux, enfin la police, qui évidemment a répliqué. Les élections étudiantes en Cisjordanie présentent un intérêt politique majeur, faute de scrutins nationaux depuis 2006. Le scrutin organisé hier à l'université de Bir Zeit, c'est près de Ramallah, c'est la plus célèbre institution du système éducatif palestinien, ont confirmé pour la troisième année consécutive la domination du bloc islamique. C'est un mouvement qui est affilié au Hamas. D'après une étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et animaux qui sont en danger de disparition imminente chaque année. C'est la journée mondiale des espèces menacées aujourd'hui. Et à la fin,
oui,
bien qu'il ait perdu...
C'est comme la journée du muguet, c'est-à-dire pour le 1er mai, offrez du muguet. Et aujourd'hui, vous pouvez offrir une espèce menacée à quelqu'un que vous aimez, une petite plante en voie de disparition.
La France, à elle seule, figure parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre d'espèces menacées. Hein, quand même.
Alors sur les animaux aussi... Oh ! Un bébé panda ! Viens. Eh ben, il n'y en a plus. Ah, un socialiste.
Ça peut marcher aussi. Et à la fin, bien qu'il ait perdu, c'est le Real qui gagne. C'est le Real Madrid tenant du titre qui rencontrera la Juventus de Turin en finale de la Ligue des Champions de football. Une finale qui se déroulera à Cardiff au Pays de Galles le samedi 3 juin. Le Real s'était imposé 3-0 au match aller. Hier, ils ont perdu 2-1 sur le terrain de l'Atlético. L'Atlético qui a mené 2-0 quand même au bout de 20 minutes. Donc ils ont un peu flippé les Madrilènes, enfin version Real.
Mais ils ont flippé leur race.
Ouais, leur race, grave.
Dire leur mère, mais on dit leur race, c'est mieux.
Non.
Et finalement, juste avant la mi-temps, le Real a marqué un but. Bon, le but en soi, il est comme il est, mais surtout, il est précédé, et je vous invite à aller le voir, d'une chevauchée fantastique. D'un certain dénommé Benzema.
Benzema.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on peut.
Au milieu de trois défenseurs, un truc de taré.
On peut le voir, c'est peut-être le revoir ou il le rejoue pour vous
on peut le revoir.
Si on s'entend avec Benzema,
on peut le revoir parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, on a accès facilement, on peut revoir des images assez facilement.
Est-ce que je peux poser une question à Thierry Paré?
C'est assez fou.
Oh Thierry Paré, comment appelle-t-on une purée écrasée de pois chiches du
purée de pois chiches?
Non, mais du
houmous.
Vous dites pas du houmous. Ah, tu les prononces, c'est fini le journal ou pas?
Ouais, bah il y a Lyon qui joue ce soir quand même en Europa League, voilà, c'est important aussi contre l'Ajax.
On lui met une note.
7
Mais sur combien?
Je ne dirais pas sur combien.
Elle est à 10. Tiens, entrée, il y a Jack Souvent qui, au lieu d'être dans la rue,
tout
il est
monde
là.
A gagné pour
avec
moi.
Le... Entrée, c'est pas vrai. Faut
taper
vous le dire,
d'abord.
Faut vous le dire sur quel ton.
Faut taper.
L'arrivée en direct de Jack Souvent, accompagné de Philobert Souvent, on l'avait au téléphone. Le voilà en vrai. On le voit en vrai. Ancien lutteur sénégalais à Dakar. Non, vous êtes très costaud, Philobert. Philobert qui est le kiosquier de la Croix de Chavaux. À Montreuil, à côté de Paris. Bonjour, vous allez bien?
Ça va très bien, merci.
Qui garde le kiosque quand vous êtes là?
Oh, c'est un cousin qui me donne un dépannage.
Ouais, c'est louche, quoi. On peut parler d'une histoire pas claire, un truc un peu l'ami d'un cousin. Dites-moi, vous êtes très costaud, je vous voyais pas comme ça du tout. À votre voix, je pensais pas que vous étiez une sorte de baraque.
En général, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Même mon beau-père, un jour, quand il voulait me voir, il savait pas à qui il avait affaire au départ.
Parce que vous avez une voix tout à fait douce et caressante et vous avez un physique assez massif.
C'est vrai.
Vous êtes une paire de claques cachées sous un océan de douceur. Vous êtes une main de fer sous un gant de velours.
Non, un mastodonte, bien fait.
Jacques, souvent, on vous a pas vu en studio ici depuis 1968, juste avant mai. Et puis mai 68 est arrivé.
Dans la rue.
Ouais, vous êtes parti dans la rue et depuis, vous n'êtes plus jamais rentré.
Ben non. Non, c'est bien la rue, j'aime bien le climat, j'aime bien le bitume, j'aime bien rencontrer les gens, comme Philobert.
Vous allez tenir combien de temps en studio avec nous?
Je pense 5-7 minutes peut-être.
Alors,
combien.
Je vais vous faire écouter ce que nous on subit. Vous avez un peu de pub, Armel, pour
Alors
qu'on
non,
la
malheureusement,
réalité de la vie.
Il n'y en a pas tout de suite.
Vous avez de la chance, vous allez avoir un peu de musique. À
ah,
tout
génial.
Ce matin, Jacques Souvent a débauché Philobert de son kiosque de Montreuil. Alors, les kiosques à journaux, il y en a quoi? Il y en a dans tous les centres-villes encore? Où est-ce qu'il y en a des kiosques à journaux? C'est typiquement parisien, c'est où?
Non, c'est dans tous les centres-villes. Et en région parisienne aussi.
Alors, ça fait des années qu'on nous dit que la presse écrite se vend moins, donc les kiosques fermes sont remplacés par autre chose. Ou vous-même, dans votre kiosque, vous remplacez la presse par d'autres produits que vous vendez?
Il n'y a même pas de place pour remplacer les produits. Vous imaginez, dans un kiosque de 1500 articles, on vous en met 4500. C'est impossible de gérer ça.
Ça c'est, vous, donc c'est géré par ce qu'on appelle les NMPP.
Exactement.
C'est quoi, c'est, la, c'est quoi exactement?
C'est
des gens qui sont là pour la diffusion de la presse. Hein, pour la...
Oui, parce qu'aux yeux de la démocratie, on est obligé d'avoir un endroit où tout le monde passe pour pouvoir distribuer. Or, la NMPP s'occupe de cette distribution. Ils sont d'ailleurs deux aujourd'hui. Il y a la MLP.
Notez chez vous. Hein.
Oui, il y a la MLP. Ils sont maintenant deux distributeurs.
Maintenant, Marine Le Pen, on l'appelle MLP aussi. Peut-être on va nous dire qu'on parle de ça tout le temps. Donc, arrive chez vous 4500 journaux. Vous êtes obligé de tous les prendre. Au moment où vous n'êtes pas comme un client. Vous ne dites pas pour mon kiosque, tiens, j'ai envie de un truc de, sur les paysages, Le Monde. Vous êtes obligé de prendre Le Monde du bateau, Le Monde du tricot, Le Monde du à poil.
Oui, exactement. Obligé, on est obligé de prendre tout.
Donc il y a 4500 titres, et même si on en vend moins, il y en a quand même autant qui paraissent.
Exactement, et tous les jours ça augmente. Ça augmente parce que les gens ont envie de faire publier leur mensuel ou leur quotidien. Et comme ce n'est pas la NMPP qui doit passer, et c'est une obligation...
Donc vous gardez ça moncelle à l'intérieur.
Ça monte.
Il y a des tailles nouilles.
Dans le kiosque, c'est énorme. Quoi. Il y a des cartons partout, c'est tous les matins. Hein.
Il y a des titres, vous savez même plus ce que c'est. Quoi.
Exactement, oui.
Et dites-moi, quand on achète, moi, quand j'étais dans un Woody Allen, il veut acheter un moment un journal un peu porno. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui achètent des journaux érotiques? Ils sont un peu honteux, ils achètent à côté trois trucs très intello ou ils assument la plupart du temps?
Non, ils sont un peu discrets dans leur façon de demander. Ils essaient de lancer des coups d'œil de gauche à droite pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Oui. Quoi. Bon. Et puis,
on prend souvent un autre journal pour mettre la couverture à l'intérieur. On prend l'IB.
On sent l'expert là.
Je livre, j'essaie de mettre ça dans un autre journal.
Dans un autre journal.
Oui, pour essayer d'être discret, mais je sens a priori qu'est-ce qu'il veut en vrai.
Oui.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a par exemple effectivement quelqu'un qui repart avec 4 magazines sur la politique internationale, il vous dit, vous mettrez aussi un peu de celui-là, Orgasmos là.
Oui. vous dites bien fort.
Effectivement,
Union.
On trouve un peu de tout.
Oui.
C'est pas seulement celui qui achète les 4 magazines. Bon, il peut y en avoir un sur 50, mais en général, ceux qui achètent ce genre de livres viennent un peu d'une autre façon.
Il y a des types qui vous inquiètent un peu, suivant leur choix de journaux et de livres?
Oh, étant bien costaud, comme vous l'avez dit au début.
Non, enfin, qui vous inquiète pas. pas comme une menace directe. Pas comme une menace personnelle.
Mais pour la société.
Vous n'aimeriez pas être la personne qui les attend à la maison ou qui habite leur immeuble?
Non, pour la société, oui, il y a des jeunes clochards dans le coin, des SDF qui viennent souvent acheter ces livres-là. C'est un peu inquiétant.
Vous trouvez que c'est pas une sexualité très inquiétante, une sexualité sur support presse. Et dites-moi, est-ce que vous arrivez à faire imaginer la vie de quelqu'un à partir des journaux qu'il achète parfois?
Oui.
Dites-moi un type de profil, par exemple, que vous retrouvez beaucoup à Montreuil.
Un profil un peu manqué dans la réussite de sa vie.
Oui.
C'est quelqu'un qui est un peu perdu, il se retrouve dans...
Il achète Comment gagner au jeu, l'automagazine.
Ah ben ça, c'est tout ce que je fais toute la vie.
Vous en vendez beaucoup, des tac au tac, des trucs comme ça? Vous avez le droit? Non, c'est des mines tabac, ça.
Non, mais des turfs, des trucs comme ça.
Des turfs, des journaux de course.
Ouais.
L'autofoot, comme vous venez de dire. Bon, j'en vends suffisamment.
Des journaux d'horoscope, beaucoup aussi?
Horoscope un peu moins. Un peu moins.
Et vous, Jack?
Il y a encore des gens qui rêvent.
Il y a des gens qui rêvent, mais de moins en moins.
Oui.
J'étais ailleurs, là.
Il y a des gens qui rêvent, mais qui se réveillent très vite. C'est ça, en fait.
Ah, c'est pas mal. J'aime bien tout à coup quand la conversation prend un ton un peu de veillée au coin du feu, un peu comme ça.
Hein. Oui,
c'est peut-être pas des vitres teintées. Je ne sais pas. Sont teintées les vitres, là, non?
Oui, on est dans un trou noir, là. Vous êtes la première lumière éclairée, votre kiosque à la Croix-de-Chaveau.
Exactement.
On va le décrire un petit peu, ce kiosque. Jack et Philobert, on imagine, on est à Montreuil, là, aux portes de Paris. Il fait encore nuit. Vous arrivez. Il est quelle heure?
6h moins le quart.
Vous appuyez sur un interrupteur. Vous dépliez le haut vent. Comment ça se passe? Décrivez-nous votre arrivée.
C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Alors, j'appuie sur un bouton. Le haut vent qui apparaît. Je mets la lumière. Alors, je commence à sortir les présentoirs.
Les
présentoir. Les cartons sont là pour le moment, la presse n'est pas sortie.
Non, pas encore.
Vous les ouvrez avec des ciseaux, un couteau.
Voilà.
L'odeur du papier frais.
C'est exact.
Comme une promesse.
Exactement.
On en mangerait, c'est chaud comme un croissant.
C'est ça, oui.
Il y a des matins d'espoir, des matins plus sombres, des matins de victoire.
C'est ça, oui.
4-0, le foot. 65-35, la politique.
Et puis il y a des matins bruyants aussi.
Oui.
Avec le football qui a été bien animé toute la nuit.
Des gens tristes parfois qui ont besoin de vous parler.
Oh, il n'y a que ça. J'en ai plein. Chaque fois, je perds suffisamment du temps parce que je dois m'occuper des gens qui ont envie de parler un peu.
Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Ça dépend des sujets. Sur le football, sur la politique.
Sur leur famille aussi.
Leur famille aussi.
Des gens seuls.
Des gens seuls, pas mal. Surtout les femmes qui arrivent le matin, qui se mettent à se promener dans la boutique. Je me demande, mais qu'est-ce que celle-là a fait toute la nuit pour être là comme ça.
Et qu'est-ce qu'elle a fait pour être là?
Oui, effectivement. Elle n'avait rien d'autre à faire pour venir flâner dans mon cœur. Et sans rien acheter souvent.
Oui, mais on peut pas flâner.
Elle fait un tour comme ça, sans se déranger, en train de regarder dans toutes les directions. Je me demande, mais qu'est-ce qu'elle peut faire là?
Et vous n'osez pas, vous avez la discrétion de ne pas lui demander?
Pas du tout. Il n'y a qu'un simple bonjour, au revoir.
Mmh. Ah, on est bien. Ça fait du bien.
Ben oui,
c'est comme c'est un massage un peu des oreilles.
On était partis, on nous avait massé les oreilles.
Jacques, comme en ce moment vous êtes en dépression nerveuse, je ne veux pas que vous éloigniez trop du studio. Donc vous allez rester dans le quartier?
Moi, je veux pas être très loin. Ouais. En face, par exemple.
Mais, et on vient vous voir de temps en temps.
Oui.
On se relaie.
Ah oui,
il y a un commissariat en face, tu devrais essayer.
Ouais, non, je ne suis pas sûr de ça.
Alors, très sympathique.
Tu vas commencer tout seul dans la rue, ouais. Jacques. De temps en temps, Tito, vous irez avec la guitare dans la rue. De temps en temps,
oui, je veux bien la guitare dans la rue.
Philobert, merci d'être passé.
La guitare à l'arrêt de bus.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie aussi.
Et repassez nous voir. Là, vous repartez sur Montreuil, là?
Exactement, à mon kiosque.
Très bien. On va
Est-ce que vous laissez lire quelqu'un qui n'a pas d'argent de les journaux? Il y a des gens qui viennent comme ça discuter.
Feuillettent tout le temps. Ouais.
Et qui feuillettent tout le temps.
C'est tout le temps.
Ah voilà, parce que je les aime bien, ces gens-là qui.
Bah, parce que t'es pas un commerçant, oui.
Non, parce que je l'ai fait longtemps. Je l'ai fait longtemps et je parlais et le mec me laissait lire les journaux.
Le commerce, c'est, il faut retenir les gens avec quelque chose. Hein.
Oui.
Ceux qui viennent une fois, bon, la prochaine fois, ils vont revenir.
Ah ouais.
Voilà, si vous êtes gentil.
Merci.
Merci beaucoup.
Salut.
7h, 9h, plus près de toi.
Eva, plus près de toi.
7h, 9h,
Édouard Baird. 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Tout le monde est là pour les connoisseurs, il y a un monde fou, attention.
Oui,
yo,
non,
yo, respect non. À yes. Tous les massifs, tous les possibles sont là, réunis aujourd'hui. Ça va de Charlène, Eugénie Armel, à Atmen, Tito, Philobert, il y a la Marie, oh, voilà. Il y a Jack Soumet, pas encore parti dans
Qu'est-ce
la
que
rue.
Je fais là
ça grouille, ça machin, ça machin.
Ça turbine, ça ventriloque.
Le mec qui manque un verbe, ça machin, ça truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu là, dans la presse, dans la vie, sur Internet?
Moi, je veux bien commencer par la petite fugue en Indre-et-Loire d'une petite fille de 4 ans
oui.
Qui est partie de chez elle dans la nuit en pyjama. 4 ans, pyjama avec des chaussons pour retrouver son amoureux. Elle a fait 4 km sur une départementale jusqu'à qu'une fille qui sortait de boîte de nuit l'a retrouvée.
C'était pas elle?
Non, c'était pas elle. Elle avait 4 ans. Mmh. Non, mais vous avez
elle
pas
était
suivi.
Elle pas en boîte de nuit.
Non, elle était pas
Donc
en boîte de nuit.
Une fille.
Une fille de 4 ans se lève, les grands-parents dorment.
Il y a une autre sortant de boîte de nuit qui dit: où tu vas, ma petite?
Où tu vas, ma petite?
Oui.
Bonne rencontre pour une fois. Et la ramène au commissariat. Elle a dit: je voulais retrouver mon amoureux. Elle avait rempli un sac plein de jouets pour lui faire un cadeau. Elle avait gardé le pyjama et les chaussons. Et les grands-parents qui dormaient, qui ronflaient, n'ont rien entendu, ne l'ont pas vu sortir. 4 ans, 4
kilomètres. Qu'est-ce qu'on en pense?
Elle a retrouvé son amoureux le mardi à l'école.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, elle est mignonne.
Elle est mignonne. C'est le mot. Merci à Léo qui m'apporte un café. Léo, depuis 25 ans en stage à Nova, il lui a fait promettre au bout de 25 ans des postes de direction. Il m'apporte un café, c'est tout à fait gentil quand même. Et c'est aussi utile que certains postes de direction. Ouais. Merci. D'autres choses, Marie Missé?
Moi, je la trouve pas mignonne. Je trouve ça inquiétant pour son petit copain et à sa place de son petit copain.
Mais quelle est l'idée d'aller le rejoindre dans la nuit? Oui, je ne sais
je
pas.
Je pense qu'elle s'ennuyait chez ses grands-parents et qu'elle
oui,
est
amoureuse. Ça, je pense.
Oui,
ça
oui. Moi, j'en parle parce que j'ai une fille de 4 ans. Vous le savez, tout le monde le sait maintenant. Donc ça me touche.
C'est un moment qu'elle a 4 ans. Qu'elle passe à 5 maintenant. Depuis le temps que vous en parlez. Alors.
Alors moi, j'ai vu un truc vraiment bizarre hier.
Je me disais quand.
Oui, Marie. Non,
non. Oui, je suis pas sûre de ce que je vais vous dire, mais je l'ai vu et c'est vrai que je suis restée assez bouche bée. C'était une vidéo de Vice. Vous savez, maintenant tout le monde produit des mini vidéos pour qu'on les regarde vite sur Internet. Eh bien, sachez-le.
Je l'ignorais.
Et alors là, c'est sur des performeurs pour animaux. Hein, donc, ils sont payés par les maîtres des chiens et des chats pour faire des performances pour animaux. Donc, on les voit d'abord discuter avec les animaux pendant 15-20 minutes pour définir quels sont les besoins du chien en question, comment il a été élevé, comment il est arrivé dans cette maison-là. Et ensuite, ils font à peu près une demi-heure de performance. Donc, tu les vois à quatre pattes, à plat ventre, filmés par les propriétaires. Enfin, c'est vraiment... on rentre dans une dimension
c'est pour distraire les animaux un peu. C'est des spectacles
pour animaux. C'est pas de la distraction, Edouard. C'est beaucoup plus profond que ça.
C'est beaucoup plus grave. Bien entendu. Est-ce que ça ne serait pas une de ces infos un peu décalées?
Ah oui, si,
comme il y avait un peu dans les magazines féminins autrefois. Est-ce que vous n'êtes pas chroniqueuse chez Foufou, Atmel et Marie Misset? La petite info décalée. Ça va, oui?
Non, mais c'est une
chose qui ont des chances.
Ah, ok, bah, dans ce cas, j'ai autre chose.
Oui, Jack.
Que Gérald Dahan rejoint les Insoumis.
Se filmer
c'est
comme
ça,
c'est un peu de. C'est déjà de l'infraordinaire. Moi, je voulais parler de l'infraordinaire.
Oui, allons-y.
Moi, je voulais parler de Pérec. Il se filmait pas comme ça dans ces conditions-là. Georges Pérec, il y a la Pléiade qui va sortir en 2 volumes.
Alors, Pérec va être dans la Pléiade.
Il va être dans la Pléiade.
Consécration littéraire.
Et vous savez que Pérec, il notait. Il a fait un bouquin comme ça entier où il notait tout ce qu'il mangeait et ce qu'il buvait chaque jour. Pendant une année, il a fait ça. Je crois. Donc, c'est assez intéressant de lire ça.
Il était obsédé par les travaux mathématiques sur la littérature. Il y a même aussi un tentative d'épuisement d'un lieu où il est assis sur une terrasse. Il écrit tout. Ouais.
c'est l'épuisement. Donc, il est un kiosque où il est au coin de la rue et il écrit tout ce qui se passe au moment présent. Quoi. Et ça sort. C'est une bonne nouvelle, je trouve.
Absolument. Je vous remercie beaucoup.
Et on va faire un biopic sur Hervé Villechaize, le petit nain qu'il y avait dans L'île fantastique.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai. Quel est l'intérêt de cette info?
Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est le mot nain qui vous fait rire?
Pas du tout.
Vous finirez chroniqueur dans une merde, dans un magazine pour hommes l'après-midi.
J'ai l'impression que j'en suis pas très loin.
Qu'est-ce qu'il faut que je montre? Il y a Armel qui me fait des sites.
Oui, je vous montrerai Thierry Paré car il est 7h30.
Philobert, vous regardez la télévision le soir, vous lisez le journal, vous lisez des livres, vous discutez en famille, vous faites quoi le soir, vous?
Ah, le soir, non, je finis à 20h30, le temps d'arriver chez moi, je crois qu'en prenant un bain.
Donc pas de nouvelles spéciales de votre bain, c'est un bain. Le bain, qui permet de réfléchir. Hein. C'est ce que disait le patron de Danone.
Ça permet de revitaliser mon organisme.
Il engageait ses cadres comme ça, le patron de Danone. Vous savez, il dit, tu prends une douche ou un bain, les mecs, j'ai le cadre de dynamique, je prends une douche, il dit, ah, je suis déçu, parce que dans un bain, au moins, ça m'aurait montré que vous réfléchissez un peu, que vous prenez le temps.
Je prends jamais de Doliprane, ni de... d'antalgique, les seuls trucs que je prends, c'est un bain.
Et le meilleur journal pour emballer les verres et déménager, il paraît que c'est La Centrale. C'est vrai ou pas? C'est un bon papier pour mettre les verres.
Pour emballer les verres dans
les verres quand on déménage et qu'on quitte la France, que je vais faire bientôt. Donc voilà.
Effectivement, c'est ce que je dépanne quelquefois les clients en papier pour pouvoir emballer les verres.
Voilà.
C'est très vrai.
C'était une info pratique aussi.
Bien. C'est pas mal. Ça sert un petit peu à tout. Et puis le livre que vous avez écrit, Mes souvenirs, c'est devenu aussi de l'emballage au marché.
C'est même aux toilettes, il paraît.
Merci beaucoup. Tiens, voilà Thierry Paré.
Ouais, et puis je crois que moi je vais sortir. Là.
Alors, sortie de Jack Souvent, accompagné par Tito qui va aller faire sa météo dans la rue. Tito, allez vite faire votre météo dans la rue.
Tito,
Philobert, vous restez, attention. J'ai un journal, quoi? Pourquoi je parle fort?
Parce qu'il y a une info.
Ce matin, on était un peu. Attendez, un tout petit peu de
gym. On fera
de la gym après. D'accord.
Voilà, on envoie d'abord Thierry.
Pareil. Vous en voulez de l'info insolite?
En v'là de l'info insolite.
La Norvège a pour projet de lancer d'ici l'an prochain le premier cargo 100% électrique. Ce sera le premier au monde, doté d'une autonomie d'environ 120 km. Le Yara Birkeland, il va s'appeler comme ça, sera en mesure de transporter une centaine de conteneurs en naviguant à une vitesse allant de 12 à 15 nœuds. Ce cargo du futur, il évitera chaque année, c'est ça le plus important, 40 000 trajets polluants en camion, ce qui représente environ 678 tonnes de CO2 par an.
Il y a un fil, il sera raccordé, c'est-à-dire quand il est au port.
Après,
il y a...
je ne sais pas comment ça marche.
Il va brancher.
Transporter du pétrole.
J'imagine le cargo qui arrive
il
dans un port.
Il va transporter de l'engrais fertilisant.
Il y a un type qui est chargé, qui est là, qui a 2 kilomètres de fil, et il va sonner chez les gens. Ouais. On est au Havre, on est là, on est le Yalta. Le Yalta vient d'arriver dans le port du Havre. À quai, là, sur le bord, Il n'y a plus de prise électrique libre, les autres petits yachts, les pêcheurs aussi les ont tous pris. Alors, le marin du Yalta, Pedro du Yalta, ce superbe guatémaltèque recherché dans son pays pour divers trafics est chargé d'aller trouver chez l'habitant d'électricité. Il a sous son bras 2 kilomètres de fil électrique. Dring ! Oui, c'est quoi ? Va ouvrir, c'est peut-être le maire du Havre ! Eh, c'est Pedro, j'ai pas branché mon courant chez vous, je dois prendre l'électricité. Oui, c'est pourquoi ? Un rasoir, un vélo ? Non, c'est pour ça. Et on ouvre la fenêtre. Et là, devant ce couple de Havrais, Bernard et Françoise Duchard, les Duchard qui n'ont pas payé leurs impôts mais qui ont bien voté, il y a là un superbe porte-container de 40 000 tonnes. Mais tu vas brancher ça chez moi, oui. C'est beau. Peut-être qu'il aura vidé mon compteur électrique, mais tu m'auras fait rêver, gamin. Gracias. Oh, mancito, bailan, mi amor. Et il se tape le couple. Et c'est beau, c'est l'amour à la française. Retour dans les infos. Radio
Nova. Il faut savoir quand même que la Norvège est pionnière en la matière et qu'il y a déjà des ferries électriques qui sont déjà en cours d'expérimentation dans les fjords. Le mouvement La République En Marche devrait dévoiler aujourd'hui les noms d'environ 450 candidats pour les élections législatives au lieu des 577 initialement annoncés. Manuel Valls aimerait bien en être. L'ex-premier ministre multiplie les appels du pied vers Macron au risque de perdre sa circonscription. Problème, sa candidature ne remplit pas les critères d'investiture du mouvement La République En Marche. À commencer par l'adhésion au mouvement d'Emmanuel Macron, puisqu'il n'est pas adhérent. Manuel Valls, il est au Parti Socialiste. Et d'ailleurs, justement, tiens, l'ancien Premier ministre pourrait en outre être convoqué devant la commission des conflits du PS en vue d'une éventuelle exclusion. En fait, la procédure, elle a été lancée dès le mois dernier lorsque Manuel Valls avait annoncé son soutien à Emmanuel Macron. Après Hénin Beaumont-Marseille, c'est donc dans la cité phocéenne que Jean-Luc Mélenchon pourrait se présenter aux législatives face au socialiste Patrick Mennucci. Plus précisément, dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, il va le confirmer aujourd'hui. 39, c'est le nombre de manifestants tués au Venezuela depuis le début du mois d'avril et le lancement de manifestations géantes de l'opposition en direction de Nicolas Maduro, le président. Hier, 2 manifestants sont venus grossir les rangs des victimes et la dernière manif, hier au Venezuela, elle s'intitulait « La marche de la merde ». Les manifestants ont jeté des bouteilles remplies d'excréments sur la police locale. Donald Trump en est persuadé. Tout le monde à Washington le remerciera d'avoir viré le patron du FBI. En attendant, le New York Times affirme, lui, que quelques jours avant d'être débarqué, l'ex-patron de la police fédérale avait demandé au département de la justice une augmentation non négligeable en budget et en personnel afin d'enquêter sur l'interférence russe durant la présidentielle américaine et sur des liens supposés entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. Et à la fin, bien qu'il ait perdu, c'est le Real qui gagne. Le Real Madrid qui rencontrera la Juventus de Turin, finale de la Ligue des champions de football le 3 juillet prochain à Cardiff. Hier soir, le Real a perdu 2-1 sur le terrain de l'Atlético, mais s'était imposé 3-0 au match aller. Il n'y a plus de club français en Ligue des champions. Il en reste un en Europa League, c'est Lyon. Défait 4-1 en demi-finale aller la semaine dernière sur le terrain de l'Ajax d'Amsterdam. Les Lyonnais reçoivent ce soir les Néerlandais et il leur faudra signer un exploit pour se qualifier pour la finale. Il leur faut gagner 3-0. La question, c'est pas tant de savoir s'ils peuvent mettre 3 buts, ça c'est possible, mais est-ce qu'ils vont pas en recevoir, ça c'est une autre question. Et puis quand même un mot de la météo, parce qu'il y a des risques d'orage violents aujourd'hui. Mais là, c'est important. L'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie sont concernés par des orages violents, sans doute dans le courant de la journée. Il va beaucoup pleuvoir là-bas.
Merci beaucoup Thierry Paré. Philobert, je vous ai senti vraiment, c'est à partir du foot que j'ai senti votre œil s'éclairer vraiment tout à coup, et que l'actualité, vous l'avez trouvée vraiment intéressante.
Oui, parce que j'étais footballeur un peu, mais pas à un très grand niveau. Alors c'est une passion que j'ai, et j'aime beaucoup le football.
Vous avez joué où ?
Ben, j'ai joué en national dans le 92.
Ah oui, d'accord. Donc vous avez rêvé d'une carrière de footballeur professionnel ?
Oui, j'étais très bon gardien, oui.
Eh bien, mille vies.
Mille vies. On part tout de suite retrouver dans la rue Jacques Souvent avec Tito pour la météo dans la rue.
On est à l'arrêt de bus Sharon Keller. Le 61 arrive dans 3 minutes.
Thierry, va vérifier s'ils sont vraiment là.
Et je suis avec Sandrine et Colette qui ont leur baguette à la main. Elles venaient de promener leur chien. Ça va, Sandrine ?
Ça va, très bien.
Ça va, Colette ?
Parfaitement.
Voilà. Et Sandrine est, figurez-vous, la gardienne de l'immeuble de Nova. C'est incroyable.
Oui, tout à fait.
Bonjour, Sandrine.
Ça fait bonjour.
Alors, ils sont corrects là, Nova, dans l'immeuble ?
Ah, il faut qu'on mette un casque là.
Oui, mais alors. Allô ?
Voilà,
oui.
Je vous entends.
Oui, bonjour Sandrine. Oui,
bonjour.
Alors, vous êtes gardienne de l'immeuble ? Il y a Radio Nova qui occupe une partie de l'immeuble ?
Oui, tout à fait, 2 étages.
Ce sont des locataires plutôt agréables à vivre ? Sympa.
Oui, sympa, oui.
Ça dit bien bonjour, ça
ah, pas... ça là-dessus, j'ai pas de souci.
Bon, au niveau propreté, on est bien, on est tranquille ?
Oui, très bien, oui.
Bon, bah, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à des voisins ? Pas trop de bruit ?
Pas trop de bruit, voilà.
S'il manque du sel et du poivre, on sonne chez Nova, ils en ont ?
Oui, ou ils peuvent venir à la maison aussi, on s'arrange.
Mais là, vous êtes avec cette amie Colette, je viens d'entendre, vous promenez à la fois des chiens et des baguettes de pain. Comment distinguer l'un de l'autre ? Parce que parfois, le matin, on est mal réveillé. Voilà.
Ah bah la baguette, elle est quand même plus petite que mes chiens.
Alors la baguette est plus petite que le chien, oui.
Bon, c'est Thierry là, je vous confirme qu'ils sont bien à l'endroit où ils disaient qu'ils étaient.
Thierry Paré vient d'arriver dans la rue, a donc traversé le sas de Nova, la sécurité de Nova qui a été rachetée à la campagne de Dupont-Aignan. On lui a racheté sa sécurité. Et là, il y a Tito dans la rue qui va faire la météo. Donc on a appris, pour distinguer un chien d'une baguette de pain, la taille bien sûr, peut-être au goût, si on mord dans le chien. Vous avez déjà mordu dans votre chien par erreur ?
Ah non, pas du tout. Mes chiens, je les mangerai pas pour tout l'or du monde.
Vous n'avez jamais vous n'avez jamais beurré votre chien ou confituré votre chien ?
Non, jamais.
Bon, alors.
Ma baguette, oui, par contre.
Voilà, c'est ça la différence principale. Il y en a un qui est bien avec de la confiture, d'autres non. Comment s'appelle votre chien ?
Yankee.
Et votre baguette ?
Ah bah ma baguette.
On peut pas le donner.
Tradition. Tradition.
Parce que l'espérance de vie d'une baguette est trop courte. Il faut pas s'attacher. Faut pas s'attacher à sa baguette de pain.
C'est éphémère, ouais.
Oui, si quand on donne un nom aux choses, on s'y attache après. Vous voyez, vous, je ne vous ai jamais nommé Atman. C'est pour ça. Ce qu'on nomme, là, c'est très beau ce thème-là, le dégoût.
Et alors, Sandrine, tiens la feuille à Tito. Qui va pouvoir.
La feuille à Tito. Elle tient la feuille. Elle lui tient. Ah, aussi, il a peu dans cette phrase-là. Il lui tient.
La feuille à Tito.
C'est la feuille de Tito. Elle lui tient à Tito. Alors, on écoute Tito, météo ressenti dans la rue.
Je ne sais pas si je vais y aller avec Colette puis Sandrine dans la rue plus souvent. Bonjour à tous! Aujourd'hui, c'est la Sainte Estelle qui veut dire étoile, Estrella en espagnol. Les températures seront à Angers de 11 à 29, à Beauvais de 11 à 22, à Brest de 11 à Évreux de 11 à 21, à Marseille de 13 à 17, à Montpellier de 14 à 17, à Paris de 12 à 22, à Poitiers de 9 à 18, à Sainte de 11 à 20, à Sainte de 9 à 18, et à Macao de 25 à 29.
Très bien.
Je ne sais pas si je vais y aller. Avec un collègue
et Sandrine, dans la rue plus souvent. On est bien, on est à l'arrêt, c'est le 61. Est-ce que parfois vous avez pris des bus qui ne rentraient pas ? Est-ce que parfois vous êtes tenté de monter dans un bus et d'aller jusqu'au bout ?
Non.
Ça a l'air de bien se marrer. Quoi.
Contrairement aux gens qui habitent à côté des gares ou des ports, où on est tenté par le grand voyage, près d'une station de bus, on n'est pas tenté.
Oui, non, ils m'emmènent pas au bord de la mer, donc non.
On va prolonger le Drurelin jusqu'à la mer, d'accord.
Voilà, tout à fait. Et au soleil.
Je vous confirme qu'on est donc à l'arrêt du 61. À vous, le studio, à te mettre, reprenez l'antenne.
Oui, j'attends Thomas Ribi, je suis avec Thomas Baumgartner qui vient de passer aussi. Ça va, salut. Thomas Thomas Ribi, il y a les deux Thomas. Voilà. Monsieur Zribi, installez-vous.
Écoutez, voilà. Ici la tour de contrôle, c'est l'heure de la pub.
Ouais, ben c'est la pub, apparemment. Ça a l'air de bien rigoler là-bas. Et rentrez, revenez.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi ?
Il fait une chaleur dans cette émission.
Et bienvenue à Thomas Ribi.
Bonjour.
Bonjour Thomas. C'est agréable ça. Thomas, vous êtes notre homme du monde, notre homme des relations internationales.
Oui, c'est quelque chose comme ça, ouais. Hein, en tout cas, c'est une...
C'est ce que vous avez mis comme titre, je vois, sur votre carte de visite.
Aussi, sur mon t-shirt aussi,
sur votre
ouais.
T-shirt, c'est un peu long, ça fait le tour du t-shirt. Voilà, de quoi parle-t-on, Thomas, aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un titre de journal que vous avez peut-être vu passer il y a quelques jours. Le titre, le voici, à 85 ans, il meurt en voulant reconquérir l'Everest. C'est une histoire complètement folle. Qui s'est donc terminé tragiquement sur les pentes de la montagne la plus haute du monde samedi dernier. Min Bahadur Sherchan n'a pas survécu à la première étape de l'ascension de l'Everest. Après avoir grimpé plus de 5000 mètres, il a fait une crise cardiaque au camp de base. Les Sherpas qui l'accompagnaient n'ont pas pu le ranimer. Le plus triste dans tout ça, c'est qu'il est mort sans doute plus à cause de son esprit de compétition que pour son amour de la montagne. C'est là qu'il est né dans la montagne en juin 1931, dans un petit village du Népal. Dans sa vie, il a été soldat de l'armée britannique, fermier, puis hôtelier. Ce n'est que sur le tard qu'il a décidé de devenir alpiniste. En 2008, alors qu'il a déjà 76 ans, il tente pour la première fois de sa vie l'ascension de l'Everest. Il faut quand même imaginer ce que ça représente, l'ascension de l'Everest. Donc l'Everest culmine à 8848 mètres. Il faut environ 60 jours pour atteindre le sommet. L'oxygène est rare. Il y a eu des centaines de morts sur les pistes. Et c'est hyper compliqué, c'est ultra physique. Les scientifiques considèrent qu'un jeune homme en pleine possession de ses moyens se sentira comme un homme de 70 ans lorsqu'il arrivera au sommet. Min Bahadur Sherchan, à l'époque, a donc 76 ans. Son exploit est presque inexplicable. Ce jour-là, il devient l'homme le plus vieux du monde à gravir la montagne la plus haute du monde. Un record inscrit dans le Guinness Book, il devient un héros au Népal. Mais 5 ans plus tard, en 2013, un événement va sans doute causer sa perte. Un autre homme, Yuichiro Miura, un japonais de 80 ans, tente à son tour l'expédition. Alors lui, c'est pas un novice, il a déjà gravi l'Everest 2 fois, à l'âge de 70 ans, puis à l'âge de 75 ans. Jeune, il a également dévalé l'une des faces de l'Everest à ski. C'est un amoureux de la montagne, le seul endroit où il se sent bien, c'est ce qu'il dit. S'il tente l'ascension, lui, ce n'est pas pour battre un record, mais pour profiter encore du décor et pour se prouver que malgré son âge, il peut encore se surpasser physiquement. À l'époque, il a déjà eu des problèmes cardiaques, il a déjà eu du diabète, il s'est cassé 5 côtes en s'entraînant 2 mois avant son départ, mais ça ne l'arrête pas. Il grimpe jusqu'au sommet avec son fils. Il manque de mourir d'épuisement en redescendant, mais il survit et bat donc le record de l'homme le plus vieux et le plus haut du monde. Il devient une star internationale. Il a le droit à des articles dans toute la presse et le destin étant cruel, pas seulement le destin d'ailleurs, on oublie vite Min Bahadur Sherchan, l'ancien recordman népalais. Et c'est ça qui commence à l'obséder. Il ne pense qu'à son rival et il ne pense qu'à récupérer son record. Je précise que les deux hommes se sont jamais rencontrés. Il veut repartir dès 2013, mais il manque d'argent. En 2014, il ne peut pas partir à cause des mauvaises conditions météo. En 2015, c'est à cause du séisme qui ravage le Népal et qui provoque l'annulation de toutes les ascensions. C'est donc le mois dernier qu'il peut enfin repartir. Il est sponsorisé par la diaspora népalaise d'Angleterre. Officiellement, il n'assume pas la rivalité qui le ronge. Il déclare vouloir y retourner pour défendre l'image des personnes âgées ou encore pour promouvoir la paix dans le monde. Mais personne n'est dupe. Min Bahadur Sherchan veut retourner au sommet dans les 2 sens du terme. Vous noterez cette formule qui est
excellent,
sublime, qui est de
tout
moi.
Tout à fait, bien sûr.
Mais la tâche est trop lourde. Peut-être aurait-il mieux supporté l'effort s'il avait pu partir il y a 3 ou 4 ans, si le sort ne s'était pas acharné contre lui. Cette fois-ci donc, son cœur lâche. Pendant ce temps, Yuichiro Miura, le japonais, le rival, est toujours le détenteur du record. Personne ne lui prendra avant un bon moment, sans doute. Mais la mort de son rival ne l'a pas freiné. Il explique dans ses interviews qu'il ne se sent jamais mieux que lorsqu'il est tout en haut, face aux montagnes. Il a prévu lui aussi de repartir à l'assaut de l'Everest l'année de ses 90 ans, en 2023, quitte lui aussi à passer ses derniers instants dans la montagne. Il raconte qu'il rêve de cette ultime expédition et que rien ne l'en empêchera. Il ajoute « si je suis encore vivant, bien sûr ».
Merci Thomas Ribi. J'ai particulièrement aimé le moment où vous avez évoqué l'idée de retourner au sommet dans les 2 sens du terme.
Oui, alors c'est quelque chose...
Le sommet géographique et le sommet de sa carrière.
C'est parce qu'en fait, j'écris des textes.
Ah oui,
en fait,
ah oui, il faut nous les faire parvenir.
Je chante aussi des...
Ouais, ah oui, bah, éventuellement, bon là, je n'ai plus le temps.
Je vous filerai une cassette.
Mais oui, ou pas à moi, ou par quelqu'un qui vous les transmettra à l'occasion.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup. Thomas.
Avec plaisir.
Bravo.
7h, 9h, plus près de toi. Plus près de toi. Édouard Baird.
J'irai au bout de mes rêves, essaye Tito peut-être pour Alexandre. Tu sais le jouer à la guitare, Alexandre ?
Bah, pas beaucoup.
Tu veux une aussi grande guitare que ça ?
Non, une plus
petite. Tu veux essayer sur celle-là ou c'est trop...
Tu veux essayer, hein ?
Non, bon, ça ferait comment Tito ? Et avec la chanson aussi ou pas ? Tu chantes la parole en même temps ? Et toi, tu voudrais faire quoi après ? Tu voudrais être guitariste ou c'est juste pour le plaisir ?
Bah, parce que je voudrais bien jouer de la guitare après.
Pour jouer près du feu, pour faire que les filles te regardent, pour faire des jolis moments, pour chanter.
Pour le plaisir.
Pour le plaisir. Pour le tien ou pour celui des copains ?
Pour tout le monde.
C'est drôlement bien les gens qui jouent d'un instrument. Moi, ça me fascine. C'est des choses que je trouve la plus belle, jouer d'un instrument. Alors, Tito, lui, joue bien de la guitare. Regarde, par exemple, tu veux lui demander un morceau spécial ou un air ?
Je ne sais pas.
Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant quand vous faites un accord flamenco, Tito ? C'est comment ? Mais parce qu'en dehors de la guitare, toi, tu as une idée de métier déjà ou pas ?
Pas beaucoup.
Ou d'un genre d'endroit où t'aimerais vivre ? T'aimerais vivre en ville ?
Oui.
Pas à la mer ? Et quand tu pars en vacances, c'est où alors ?
Bah, à la mer avec une piscine, des fois à la campagne.
Ah bah dis donc, donc il y a la mer plus une piscine.
Oui.
Donc comment on choisit si on se baigne plutôt dans la mer ou dans la piscine ?
Bah, parce qu'on nous reste une semaine, alors... Bah, y a des jours où je vais dans la piscine et des jours où je vais à la mer.
Et parfois, des jours où tu prends une douche aussi. On peut choisir l'eau. Oui, on peut choisir plein. Alors, le poème, c'est un poème natif qui s'appelle Alain Debroise. Tu me l'as dit tout à l'heure là, pendant la pub, et c'était plus joli que la pub. Ça s'appelle Tour Eiffel. Tu veux bien nous le dire pour tout le monde ?
Alors, Tour Eiffel.
Tu peux tout à fait te tromper, ne t'inquiète pas. J'ai le texte et moi, je te le souffle, d'accord?
Tantôt, tu seras habité
Attention, je te présente. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on lui met son générique?
Ouais.
Alexandre dans Tour Eiffel.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Baba.
À toi.
Tantôt tu seras habité par un million d'oiseaux. Tantôt tu seras habillé de fleurs, de feuilles et de fruits. Tantôt tu quitteras Paris au beau milieu de la nuit pour partir seul à la mer. Peut-être aussi penseras-tu à inviter les pyramides au moins une fois l'an. Vous ririez bien ensemble, débaillir les Parisiens qui ne croient jamais à rien.
Bravo!
Tu penses que c'est vrai que les Parisiens, ils croient jamais à rien?
Non.
Toi, tu crois en quoi?
Bah, en Jésus.
Oui.
Je sais pas trop.
Tu penses que la vie, c'est quoi, par exemple?
Que c'est...
C'est bien?
Oui.
Et par exemple, est-ce que tu penses que parler dans un micro et que les gens t'écoutent, ça leur fait quoi de t'écouter?
Les gens qui me connaissent, ça leur fait plaisir. Les gens qui... Et les autres, eh ben, c'est comme si c'était des personnes à la radio.
Oui, mais ça peut leur faire plaisir aussi parce que tu leur as fait passer un joli moment. C'est chouette de faire passer un joli moment aux gens, non? Et qui t'écoute ce matin, tu sais, à qui tu as dit que tu allais venir?
Ma mamie. Il y a un copain à mon papa. Il y a papa qui est dans sa voiture qui m'écoute. Et il y a peut-être ma nounou.
Eh ben, on va se renseigner. En tout cas, tu nous as fait gagner des auditeurs. Et ça, je peux te dire, mon vieux, je te dois un chien de ma chienne. Eh ben, je te souhaite une belle journée, mon vieux. T'as été super. Tu veux faire un message?
Merci.
Je t'embrasse très fort. Salut, merci Tito.
7h, 9h, plus près de toi.
On va.
Et maintenant, le journal de 8h avec Thierry Paré.
Je n'ai pas coupé dans la rue, je cherche.
Le mouvement La République En Marche devrait dévoiler ce jeudi les noms d'environ 450 candidats pour les élections législatives au lieu des 577 initialement annoncés en raison de l'afflux de candidatures de dernière minute. L'ensemble des personnes ayant postulé mais n'ayant pas été retenues seront prévenues par mail. Quant aux candidats sélectionnés, eux, ils ont été ou seront informés par téléphone avant l'annonce officielle. Manuel Valls aimerait bien en faire partie. Problème, sa candidature ne remplit pas les critères d'investiture du mouvement La République En Marche, à commencer par l'adhésion au mouvement d'Emmanuel Macron, puisque il ne l'est pas. L'ancien Premier ministre pourrait en outre être convoqué devant la commission des conflits du PS en vue d'une éventuelle exclusion. En fait, la procédure elle a été lancée dès le mois dernier lorsque Manuel Valls avait annoncé son soutien à Emmanuel Macron. Après Hénin-Beaumont-Marseille, c'est donc dans la cité phocéenne que Jean-Luc Mélenchon pourrait se présenter aux législatives face au socialiste Patrick Mennucci, plus précisément dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. 39, c'est le nombre de manifestants tués au Venezuela depuis le début du mois d'avril, en fait depuis le lancement des manifestations de l'opposition contre Nicolas Maduro. Hier, deux manifestants sont venus grossir le rang des victimes. La dernière manif hier au Venezuela s'intitulait « La marche de la merde ». Les manifestants ont jeté des bouteilles remplies d'excréments sur les policiers. Donald Trump en est persuadé, tout le monde à Washington le remerciera d'avoir viré le patron du FBI. Bah, en attendant, le New York Times affirme lui que quelques jours avant d'être débarqué, le patron de la police fédérale avait demandé au département de la justice une augmentation non négligeable en budget et en personnel pour enquêter sur l'interférence russe durant la présidentielle américaine et sur des liens supposés entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump. Est-ce que vous connaissez le complexe nucléaire Danforth? Il se trouve aux États-Unis, c'est dans l'état de Washington. Il est grand comme 15 fois Paris, je vous laisse imaginer. Il est considéré depuis une vingtaine d'années comme la poubelle nucléaire des États-Unis et il a été le théâtre d'un incident important mardi, un incident ayant occasionné le confinement des 5000 employés du site qui ont eu comme consigne de couper toutes les ventilations du site ainsi que d'éviter de manger et de boire. Il semble que des travaux soient à l'origine de l'affaissement d'un tunnel ferroviaire. C'est une inspection de routine qui a permis de s'en rendre compte. Il s'agit maintenant de combler cet affaissement d'environ 6 mètres de long avec de la terre non contaminée. Pour le moment, en tout cas, il n'y a aucune fuite radioactive de constater en tout cas, mais l'incident a tout de même contraint les autorités à interdire le survol de la zone. On ne compte plus les fois où Bernard-Henri Lévy a été entarté, ça en fera une de plus du coup. C'était hier soir à Belgrade où il était venu présenter son film Peshmerga. Battu 3-0 par le Real Madrid en demi-finale allée de la Ligue des Champions, l'Atlético n'a pas réussi à renverser le score, c'était pas loin. L'Atlético a mené 2-0 avant que le Real n'inscrive le but de la libération. Le Real qui sera opposé à la Juventus de Turin en finale le 3 juin prochain à Cardiff. Ce soir, demi-finale retour de l'Europa League. Lyon va recevoir l'Ajax d'Amsterdam. La mission s'annonce très compliquée puisque les Lyonnais se sont inclinés 4-1 au match aller aux Pays-Bas. Un mot de la météo pour terminer. Attention aux orages aujourd'hui sur 6 départements rhône-alpins placés en alerte orange. Il s'agit de l'Ain, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. Alors, on va passer à la suite sur Nova.
Je suis allé dans la rue voir où était Jack souvent, mais en fait, il est loin. Il est où ? Il est à la boulangerie, on m'a dit ?
On est là. Édouard, on est là.
Oui, vous êtes où ?
On est avec une psy, très jeune, très jolie, qui est à la fois psy et mannequin.
Oui, c'est le monde moderne. Il faut deux métiers maintenant pour survivre.
Que voulez-vous que je dise ? Alors, Jacques, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle va Châtillon travailler.
Vous pouvez pas laisser vos patients comme ça sur le trottoir.
Non, vous vous rendez compte, je peux pas faire ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire ou qu'est-ce que vous dites ?
Alors, qu'est-ce que je voudrais dire ?
Oui.
Et qu'est-ce que je dis ? Il y a bien une différence.
Alors, vous êtes deux malades.
Est-ce que vous arrivez à dire ce que vous voulez dire, madame ?
Ah non, justement, oui, j'essaye de dire ce que je voudrais dire, mais...
Mais vous le dites bien, en tout cas. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez, mais le résultat est un succès. Quand vous allez à la boulangerie, c'est ce que vous vouliez faire ou vous vouliez acheter du pain ?
Non, je voulais plutôt prendre un bon petit déjeuner.
À la boulangerie ?
Oui, j'ai rencontré deux personnes.
Ce sont deux repris de justice, Atmen Khelif et Jacques Souvent. L'un a pris 15 ans et l'autre le double. Alors, vous êtes à la boulangerie, vous vous sentez plutôt psy à la boulangerie ou cliente de boulangerie ?
Est-ce qu'il y a plus... cliente de boulangerie.
Oui. Même si la baguette s'appelle l'émotion.
Ah, ça par contre, ça m'a fait tilter.
Oui.
Je me suis dit quand même, il y a quelque chose à penser là, mais je me suis sentie cliente quand même. Mais poursuivie par deux personnes bien étranges.
Ça, c'est
vous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de dingues là où vous allez travailler, c'est vrai ou pas ?
Ouais, il y a des gens, on est tous un peu dingues, hein, mais bon.
Quand vous êtes dans une boulangerie où la baguette s'appelle l'émotion, vous pensez qu'il y a de l'innocence dans cet intitulé ou de la part de la boulangerie, il y a quelque chose d'un peu racoleur ?
Oh, j'aurais tendance à penser un petit peu les deux.
Ce mélange, oui, on se réfugie dans celui qui nous arrange. Quelles sont les déformations que vous avez dans votre vie liées à votre métier ? Est-ce que vous avez l'impression d'arriver à... comme un policier qui continuera à faire l'ordre à la maison, est-ce que vous continuez chez vous ou à la boulangerie à être en analyse du monde extérieur ?
Oh, alors ça, j'y fais assez attention parce que souvent, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand je dis que je suis psy, on me dit toujours « Ouh là là, je vais faire attention à ce que je dis ». Et je dis toujours « Mais si je suis psy, c'est pas la formation, c'est l'écoute que j'avais à la base qui fait que j'ai été vers le psy ». Donc non, je suis assez cool là-dessus et je me dis que forcément, il doit y avoir de la déformation professionnelle, mais je le prendrai dans l'inverse, quoi. Ouais. J'ai été vers la psy puisque...
Vous avez de la chance, vous vous libérez de... Tandis que moi, je continue dans la vie, j'ai un micro et je continue à parler fort et à dire des phrases bizarres. Dites-moi, elle est où cette boulangerie ? Je vais passer.
La boulangerie, elle est le Drurot, là.
Très bien, à tout de suite.
Ah non, mais moi, je dois partir.
Venez nous voir, on vous retient. C'est très beau de pouvoir acheter de l'émotion. De pouvoir... Quand la baguette s'appelle l'émotion, le croissant consternation, le pain au chocolat espérance, la tartelette au citron joie, le macaron s'appelle déception et le pain de mie tranché s'appelle peut-être. Chaque chose qu'on se met dans la bouche a un nom lié à un sentiment. Le monde devient plus clair, plus lisible. Je vais aller voir la boulangerie. Voilà.
C'est bon.
Si, oh là, Galinette.
Oh.
7h, 9h, plus près de toi.
Nova. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
On est à Marseille avec Bouchta qui nous a pas parlé depuis longtemps. On ne sait pas du tout ce qui se passe dans son quartier, dans sa vie. Ça va, Bouchta ?
Bonjour Edouard, ça va mon poussin ?
Et toi ?
Ben, très bien. Hein.
Qu'est-ce que tu deviens ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous, tu sais, en Marseille, on entend ça que par l'information nationale. On sait que Mélenchon se présente à Marseille. Mais dans les rues de Marseille, dans ton quartier, qu'est-ce qui se passe ?
Depuis le vote, ça va, tranquille. Hein. Marine nous a fait peur un moment.
Vous parlez de ça ou dans la rue, vous parlez politique?
Ah oui, on parlait beaucoup de politique ces derniers temps, avec la peste et le choléra, on savait qu'elle allait perdre, la connasse. Mais tout le monde rigolait, tout le monde disait « je vais voter Marine », tout le monde disait « je vais voter Marine ». Ils sont fous à Marseille, ils adorent l'adrénaline.
C'est des petites provocations que se font les gens?
Oui, beaucoup de provocations, ils ont profité. Je suis Marine, Marine elle est comme Trump, elle a raison, tout français, il y en a marre, il y en a marre. Et finalement, moi je suis parti voter et il y avait la queue là, tu sais, là, devant les Zulois.
Oui.
Et moi j'étais le quatrième. Et il y avait un couple qui allait juste au moment qu'ils posaient l'enveloppe dans la boîte. Et leur téléphone portable, un gros téléphone qui commence à sonner. Et c'est le muezzin de la prière là. Allahu Akbar.
Mais non, c'est vrai?
Je t'assure, je te mens pas. Et j'ai eu peur moi. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde me regarde à moi parce que j'étais pas bien habillé, c'est couscous. Et il y avait un vieux là, il me regarde, je dis « Ah, c'est pas moi ». Il y avait un couple français qui était en train de voter, c'était eux. Il cherche le portable partout dans la poussette du petit, il ressort un gros portable, il dit « Qu'est-ce qu'il y a? On l'achète à Dubaï, on n'arrive pas à le débloquer ».
Mais non, c'est pas vrai. La sonnerie de leur portable, c'était l'appel à la prière.
Ça se fait souvent.
Oui. Ouais. Et eux, non, c'est normal. Et après, il disait à sa femme « Allez, allez, on va chez Parrain Marine. Marrain, Parrain, quoi. Bon, bref.
Ah, alors c'était des Gaulois, quoi?
C'est français normal.
Il y en a trop en France, des Gaulois.
Non, mais ils ont acheté un portable à Dubaï, ils étaient bloqués sur Allahu Akbar. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a à l'acheter à Dubaï?
Et après, tout ça, les gens ont rigolé après?
Bien sûr, ça a débloqué tout de suite. Tout le monde a comme passé à une bombe. Non, il n'y avait pas de bombe, c'était un portable en enfer, là-bas de Dubaï.
Mais tu vois, ça tient à rien. Un bon portable qui dit Allahu Akbar, acheté à Dubaï, et tout le monde rit dans les rues.
Oui, ils m'ont tous regardé. Je dis, c'est pas moi, c'est eux. Tout de suite, j'ai balancé. Ouais.
T'as tout de suite, oui.
Tout de suite, il s'est écarté de l'isoloir.
Toi, tu as dit. Tout de suite, c'est comme ça, c'est pas moi. C'est eux.
Tu aimes bien balancer, t'aimes bien.
Ah non, j'ai balancé direct. J'ai eu peur. J'ai dit, oh, c'est qui?
T'as déjà. Oui, tu vas nous la raconter une troisième fois. Oui. C'était en fait un portable acheté à Dubaï qui n'avait pas été débloqué. Oui.
Il a dû n'arriver pas à être débloqué, l'acheter comme ça, avec la musique.
Avec la musique, à l'Akbar. Oui. Parce qu'en fait, ils ont cru que c'était toi parce que tu es arabe, Bouchta.
Ouais, tout de suite,
donc tout de suite le délit de sale gueule, on connaît bien, voilà, c'est lui, c'est l'autre, tout le temps, le différent, l'étranger. Pas du tout, c'était de ce qu'on appelle, toi tu appelles les bons français, j'appelle ça le gaulois, quoi.
Ouais. Hein?
Et c'était eux parce qu'en fait c'est un portable qui avait été acheté.
Oui, à Dubaï.
Mais à Dubaï. Et à Dubaï, en fait, quand tu achètes, ils ont programmé le Allahu Akbar, qui est en fait un appel à la prière, qui n'est pas du tout un chant à quelque chose d'agressif en soi.
C'était la promotion du jour, Allahu Akbar.
Et en fait.
Il y a quatre sonneries, océan, cristal et la prière,
Très
joli ton truc, ouais.
Bon, merci.
J'ai dormi à 4h du matin, une copine est venue me voir.
Oui.
Quoi, pas une copine, un copain. Oui. Elle est belle, elle est blonde aux yeux bleus, c'est une folle, travelo sur Internet. Et tu sais comment l'appeler maintenant?
Non.
Parce qu'elle s'appelle Inès sur Internet. Elle est lui qui l'a recherché, les belles, les blondes aux yeux bleus, quoi.
Oui.
Ce qu'il en reste de ses cheveux, parce qu'il en reste plus dans la banlieue que dans la capitale.
Bon. Oui.
Et elle m'a raconté qu'un client, un beau gosse, un vieux, plein de sous, il arrive à la maison, il l'a vu en brune. Oui. Elle a plein de perruques, elle a toutes les couleurs. Et quand elle l'a vu en brune, elle a dit, t'as pas blonde? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait pris une brune qu'elle avait payée très 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 cher. Elle a dit avec le client, je vais la tirer comme pour la pêche. Tu vois, la crevette, tu vois, pas un morceau de pêche. Ouais.
Je préférais la première histoire.
Hein?
Je préférais la première histoire, moi. Là.
Oh oui, non, mais c'est pas fini. Le client, il est parti avec la perruque. Hein. Il a volé la perruque. Écoute-moi.
Mais non, monsieur, une pute. Bon, bah écoute. Non,
il avait payé cher, mais là, j'ai pas compris. Un client qui dit oui direct,
oui.
Il m'a dit, j'avais vu un hic. Il a dit, tu lèves la belle perruque chère, il a posé la perruque chère, il a mis la perruque vilaine, la Tina Turner l'a fracassée. Et en partant, il a dit, je me cherche la blonde, elle est où? Il était parti avec le fils de pute. Il m'a dit, salut les clients.
Donc en fait, ce que tu veux nous dire, c'est dégoût des couleurs, quoi. Hein?
Non, pas dégoût des couleurs, le mec il est malin, il avait une belle perruque très chère, il a fait son compte.
Il a dit, il l'a vendu peut-être. Et là, son téléphone a sonné, et c'était, il l'avait acheté à Dubaï.
Voilà.
Merci Bouchta, une très très belle journée à toi mon chéri.
Bon week-end.
C'est parce que vous avez compris l'histoire, Atman.
Pas du tout, mais pas c'est une broque.
Si vous achetez à Lourdes votre portable, ça fera il est grand le mystère de la foi, et là, ça sera calme dans l'isoloir. Tout
mais l'autre histoire avec la perruque, j'ai pas
rien compris. Client de quoi et quels fruits et légumes qu'elle voulait. De plus en plus de gens veulent assister à l'édito de Marie Missé. Comment vous appelez-vous, messieurs?
Charles et Paul.
Charles et Paul, vous êtes venus pour assister à l'édito de Marie.
Uniquement pour ça. Ouais.
C'est-à-dire que vous n'êtes pas arrivé avant du tout. Vous savez que c'était à 8h20.
Ouais. On est arrivé pile.
Hein, vous êtes pointé à 8h16. Hein, le reste, vous l'avez bien foot. Évité.
Voilà, et on va partir juste
à 8h24,
après.
Vous allez... Bon, allez, asseyez-vous sur le canapé, vous êtes deux belles ordures. Marie Misset.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Marie Misset, oui. En public aujourd'hui, ce matin. Est-ce que vous êtes là?
Ouais,
ça, ils sont bien, deux, ça fait du son.
J'aime bien que tu dises que c'est un édito maintenant. C'est même plus une revue de presse.
C'est bien, crois. Édito.
Oui, c'est mon édito.
Oui.
Attention, c'est parti. Dans la revue de presse du jour, le mot principal, Edouard, c'est chute ce matin. Chute d'abord à James Comey, le limogeage du patron du FBI à part Donald Trump et partout aujourd'hui dans le monde, Le Figaro, La Croix, etc. Ça fait aussi la une de Libé qui, dans sa une, eh bien, fait référence directement au livre et film référence sur le Watergate, Donald Trump, Les hommes russes du président. Le livre et film de référence s'appelle Les hommes du président. Ça raconte l'investigation des deux journalistes du Washington Post à l'origine du scandale.
Avec Robert Redford, bien sûr.
De l'impeachment de Richard Nixon. Libé nous rappelle pourquoi est-ce qu'on compare dans ce cas-là Trump à Nixon. En octobre 1973, il avait limogé le procureur spécial chargé d'enquêter sur le Watergate. Dans la foulée, son ministre de la Justice avait démissionné, le désavouant ainsi publiquement. Bref, Trump fait une Nixon tout en jurant le contraire. Non, ça n'a rien à voir avec l'enquête sur l'intervention russe dans la campagne présidentielle américaine. Il dit qu'il le vire justement pour la façon dont il a traité l'affaire des emails d'Hillary Clinton, ce qui a pourtant favorisé son élection. Il l'avait félicité, James Comey, à l'époque. Le Monde nous raconte aussi que, alors là, Trump ne s'attendait pas du tout à ce qu'on en fasse tout un foin de ce limogeage. Et les Échos soulignent, eux, le caractère un petit peu ambigu du rôle du chef du FBI à qui on donne la possibilité d'enquêter sur la Maison-Blanche. La Maison-Blanche qui a la possibilité, elle, de le révoquer à tout moment. Le dispositif ne semble effectivement pas optimal. Chut, arrêtez d'enquêter. Chut, arrêtez de parler, arrêtez d'être. C'est aussi le message du pouvoir israélien à la télé et radio publique israélienne. Le Reshout Hashidour, Libé nous raconte qu'ils ont cessé d'émettre brutalement mardi soir. Une nouvelle structure est censée voir le jour la semaine prochaine, au contour assez flou. Benjamin Netanyahou a dit « Oh, dis donc, c'était brutal, cette fermeture », mais n'a jamais caché son aversion, je cite Libé, pour les journalistes, encore eux, et les programmes d'investigation. En particulier, quant à la ministre de la Culture israélienne, elle s'est plusieurs fois prononcée pour un contrôle de l'audiovisuel public, et le coordinateur des partis de la majorité à la Knesset a lui aussi déclaré il y a peu « Les journalistes bénéficient de beaucoup trop de liberté dans ce pays, c'est donc bien la liberté de la presse qui est en jeu. C'est dommage pour un pays qui se targue régulièrement d'être la seule démocratie effective de sa région. » Chut, plus de bruit, silence. Ça tombe bien pour les journalistes de la télé et radio publique israélienne. Ça tombe bien pour James Comey aussi, puisque c'est la mode du silence. En ce moment, le Parisien s'intéresse à deux livres qui nous disent chut, qui préconisent de faire silence. Ça s'appelle « Ma cure de silence » et « Quelques grammes de silence ». L'un est signé par une jeune moine bouddhiste alsacienne qui a 42 ans. Ça m'a fait plaisir qu'ils lui disent qu'elle était jeune. L'autre par un explorateur norvégien. Les deux nous proposent de nous extraire du bruit, de trouver des zones de silence. Il va falloir faire vite pour les trouver, ces zones de silence, puisque RFI nous disait en août dernier que le silence était en voie de disparition dans le monde. Il ne reste qu'une cinquantaine de zones qui n'est pas encore polluée par le bruit humain. Mais parfois même le silence peut être utilisé contre vous. C'est le propos de l'écrivaine turque Asli Erdogan et de son livre « Le silence même n'est plus à toi ». Elle explique dans la revue Relief, qui vient de sortir, le nouveau numéro, que dans ces périodes troubles, tous les mots semblent perdre leur sens. Des mots comme paix ou démocratie sont brandis par des personnes qui ne cherchent que le pouvoir. Les concepts sont dévoyés. C'est le cas, je trouve, du silence, dit-elle. Le silence même ne nous appartient plus. Le silence des victimes, le silence des témoins. Que se passe-t-il si on nous vole aussi notre silence? Un entretien qui est beau et qui est inquiétant. Il est à lire dans la revue Relief.
C'était très bien. C'était très bien, puis après on peut parler sans aucune efficacité, un peu comme si on était dans le désert et qu'on était, nos phrases étaient ponctuées par le bruit du vent. Vous avez marché dans le désert déjà, Marie?
Jamais.
Ou pas? Vous avez entendu le bruit de vos pas dans le sable?
Ça oui.
Vous avez entendu le vent dans vos oreilles?
Ça oui aussi.
Vous avez entendu au loin quelque chose d'indéfinissable qui vous rappelait que le bruit existait?
Oui.
Merci.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Le groupe Pony Hawks à l'instant sur Nova avec Antibodies. Edouard ?
C'est Pony Hawks ?
Oui, c'était Pony Hawks.
C'est très marrant, c'est le mec qui s'appelle Nicolas Kerr qui est souvent bourré.
Oui, c'est lui. C'est ça. C'est... Qu'est-ce que vous faites, Edouard ?
Je suis allongé au fond du studio. Tito, annoncez le journal, mon vieux.
Et maintenant, le journal de Thierry Paré.
Vous pouvez le faire plus normalement.
Maintenant, le journal de Thierry Paré.
Pas d'élection interne au sein du mouvement La République En Marche. Ce ne sont pas les militants qui décident de leur candidat pour les élections législatives, mais une commission d'investiture. Cette dernière, elle a passé au crible plusieurs centaines de candidatures. Elle en dévoilera 450 ce midi. Les 450 candidats, donc, au lieu des 577 initialement annoncés. Mais ça, c'est en raison de l'afflux de candidatures de dernière minute. L'ensemble des personnes ayant postulé, mais n'ayant pas été retenues, seront prévenues par mail. Quant aux candidats sélectionnés, ils ont été ou seront informés par téléphone avant l'annonce officielle. Manuel Valls, lui, aimerait bien en faire partie de ces candidats de La République En Marche. Problème, sa candidature ne remplit pas les critères d'investiture du mouvement La République En Marche, à commencer par l'adhésion au mouvement d'Emmanuel Macron, puisqu'il ne l'est pas. Après Hénin-Beaumont, Marseille, c'est donc dans la cité phocéenne que Jean-Luc Mélenchon pourrait se présenter aux législatives face au socialiste Patrick Mennucci. C'est pas encore sûr à 4000%, mais on s'en approche sensiblement. Ce serait dans la 4e circonscription précisément des Bouches-du-Rhône. Marche de la merde, c'est l'intitulé des nouvelles manifestations de l'opposition hier au Venezuela. Les manifestants ont jeté des bouteilles remplies d'excréments sur les CRS locaux. Ces nouveaux rassemblements ont provoqué la mort de deux manifestants, portant à 39 le nombre de manifestants tués au Venezuela depuis le début du mois d'avril, depuis en fait le lancement des manifs de l'opposition au président Nicolas Maduro. Les élections étudiantes en Cisjordanie présentent un intérêt politique majeur. Faute de scrutins nationaux depuis 2006, elles offrent une fenêtre rare d'expression démocratique. Celle organisée hier à l'université de Bir Zeit, c'est près de Ramallah, la plus célèbre institution du système éducatif palestinien, ont confirmé pour la troisième année consécutive la domination du bloc islamique qui est affilié au Hamas. La Norvège a pour projet de lancer d'ici l'an prochain le premier cargo 100% électrique doté d'une autonomie d'un peu plus de 120 km. Le Yara Birkeland, c'est son nom bien sûr, sera en mesure de transporter une centaine de conteneurs en naviguant à une vitesse allant de 12 à 15 nœuds. Ce cargo du futur évitera surtout chaque année 40 000 trajets polluants en camion, ce qui représente environ 678 tonnes de CO2 par an. On ne compte plus. Non, il s'appelle le Yara Birkeland.
C'est pas le nom de tout le monde.
C'est pas le nom de tout le monde, en effet. On ne compte plus les fois où Bernard-Henri Lévy a été entarté. Ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. Ça a été de nouveau le cas hier soir à Belgrade où il était venu présenter son film Peshmerga. La finale de la Ligue des champions de football opposera la Juventus de Turin au Real Madrid. Le Real Madrid a certes perdu 2-1 hier soir en demi-finale retour sur le terrain de l'Atlético, mais le Real s'était imposé 3-0 au match aller. La finale, elle est programmée le 3 juin. À Cardiff, donc au Pays de Galles. Ce soir, en demi-finale retour de l'Europa League, Lyon va recevoir l'Ajax d'Amsterdam. La mission s'annonce compliquée puisque les Lyonnais se sont inclinés 4-1 au match aller aux Pays-Bas. Et puis un mot de la météo quand même, attention aux orages. Aujourd'hui, sur la Loire, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain et l'Isère, ces 6 départements sont en alerte orange aux orages violents.
Merci à Thierry Paré, à toute son équipe, toute la rédaction de Nova. Combien de personnes cette année derrière vous, Thierry Paré ?
Alors, on est 17 à 18. 18, très précisément, parce qu'on a embauché quelqu'un hier.
18, dont 17 qui ont été virés, il reste vous ?
Voilà, c'est ça.
C'est alors magnifique ça, ce que vous faites. Aussi. C'est très beau. Et maintenant, la météo de Jean-Bernard Tito.
Me voilà bien. Car nous voilà, toi et moi, oh, tous les deux à la fois, moi et toi, j'y crois pas. Eh bien oui, moi non plus, j'y crois pas qu'aujourd'hui c'est la Sainte Estelle, la Sainte Estrella, les Saintes Étoiles. Aujourd'hui dans la journée, il va pleuvoir partout. Accrochez-vous. Les températures seront à Angers de 11 à 19, à Bordeaux de 11 à 22, à Corté de 11 à 24, à Laval de 11 à 17, à Limoges de 10 à 16 et à Marseille de 13 à 20. Montpellier de 14 à 17, Poitiers de 9 à 18, Saintes de 11 à 20, Macao de 25 à 29, Saint-Étienne de 9 à 15 et Zanzibar de 25 à 31. Me voilà bien. Car nous voilà, toi et moi, oh, tous les deux à la fois, moi et toi, j'y crois pas.
Voilà. Tito, vous avez dit toi et moi, c'est une licence poétique. Bien sûr, il n'y a pas de Z entre le toi et le et moi, hein, il n'y a pas de ou de S qui ferait la liaison. Vous dites toi et moi pour faire un son, pour créer plus de poésie, pour créer de la surprise, de l'accident et une sonorité.
Oui, parce que toi et moi, c'est dur à dire que toi et moi.
Voilà,
c'est...
donc si vous ennuyez chez vous, rajoutez un Z.
D'accord.
Voilà.
Edouard, vous êtes toujours dans le canapé ?
Oui, attendez, parce qu'on est dans la rue avec Jacques Souvent.
Et Atmen. Et Atmen aussi.
Oui, mais Atmen,
mon Dieu, parce que vous êtes parti parce que vous aviez envie de prendre la clé des champs, de Col Buissonnière, oui.
J'ai rencontré un nouveau papa, il s'appelle Jacques Souvent, il m'accompagne.
Alors vous êtes où ?
On est dans un bureau de tabac, le Drurolin, le meilleur bureau de tabac, qui vend le plus de cash. et de Blackjack et de Jackpot dans la journée. Alors, comment vous appelez ?
Je m'appelle Samia. Oui.
Samia, bonjour. Est-ce qu'on a des tickets gagnants chez vous ?
Oui, ça arrive, heureusement.
À quoi on reconnaît un ticket gagnant ?
À quoi on reconnaît ? Aucune idée.
Quand le client dit « j'ai gagné ».
Ah oui, bah,
très bon, c'est la
quand, déjà, quand la personne le voit, ou alors des fois, ils sont même pas conscients, c'est passé à la machine.
Passer à la machine, passer notre amour à la machine. Dites-moi, Samia, quels sont les jeux en ce moment, là ? Il y a quoi ? Parce qu'ils en lancent, la Française des Jeux, tout le temps, des nouveaux, là.
Alors, les nouveaux en ce moment, c'est le pirate. Ouais, pirate, 10 ans gagnant, et le dessert.
Voilà. Le dessert qui... Ah oui. Mais c'est basé sur des faits réels, ces jeux ? C'est des...
Bah, c'est selon les actualités, en fait. Hein. Mmh. Là, en ce moment, on se base pour les 10 ans. C'était quoi ? Attendez.
Gratter Mélenchon, oui, non, Macron.
Le 10 ans gagnant, c'est 10 000 euros par mois. C'est à peu près le salaire de Hollande, maintenant.
Il a 10 excellent, ans vous rebondissez sur l'actualité, on est là, vous êtes sur le coup.
Mais sur le coup, toujours. Ouais. Le 10 ans gagnant, c'est, voilà. Et il y a le cash.
Le cash, on a droit à un agent de sécurité à vie.
Oui, ça c'est sûr, 500 000 euros, vous imaginez.
Samia, est-ce que les gens grattent sur le comptoir ? Est-ce qu'ils grattent en loose day chez eux, de peur de gagner trop d'argent devant les autres et d'être ostracisés ?
Souvent ici, sur le comptoir, ils préfèrent, ils disent qu'on porte chance.
Est-ce que vous avez vu des gens heureux de perdre ?
Non, bah non.
Parce que ça fait peur, ah si, ça fait peur de gagner. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, juste avant la réussite, font en sorte de s'aborder quand même.
Ah non, non, en général, quand tu grattes, c'est pour gagner, là, une belle somme. Hein. Et ouais. D'ailleurs, quand on vend le jeu, en général, ils demandent si c'est 500 euros ou 100 euros. Donc là-bas, c'est ça.
Alors, ah oui, okay. Moi, je joue souvent avec mon camarade Pat, que je salue, qui est à Angers, Pat Lera. Mmh. Et alors souvent, on a sous l'ongle, il nous reste un peu de matière, du papier collant, du truc qui n'est pas gracieux. Qu'est-ce que vous conseillez pour les ongles après grattage ?
Bah, avec quoi ? En général, c'est juste avec de l'eau froide. Hein.
Un peu d'eau froide, pas de savon, ouais. Pas de dissolvant.
Non, pas besoin de toutes ces conneries, excusez-moi.
Non,
de
je vous en prie.
Et hop.
Vous vendez des cigarettes aussi ?
Oui, bah, bureau de tabac.
Quelle est la bande de sadiques dans les agences de pub qui choisissent les visuels pour pas qu'on achète de cigarettes ? Ah, regarde, j'ai un foie malade. Moi, j'ai deux gamins qui ont été torturés.
Ouais, je sais pas. En tout cas, les paquets de cigarettes, c'est pas des paquets de cigarettes. On dirait que vous vendez des organes.
Exactement ça. Il y a le pied, les yeux.
Mais vous imaginez les mecs qui cherchent vraiment la photo la plus dégueulasse ? Il faut.
Ça arrive. Ouais. Et y en a qui demandent la photo la plus crash.
Comment vous allez, vous, Samia, en ce moment ?
Bah ça va, pourquoi ?
Non, comme ça, la vie, la santé.
Non, ça va, tout va bien.
La famille, ça va ?
Oui, très bien.
Les amis ?
Oui.
Les voisins ?
Les voisins.
La famille des voisins ? Les amis de la famille des voisins ?
Je sais pas faire you-you.
Moi, je sais, j'ai un très bon you-you.
Bon, j'ai fait ça, moi ? You-you-you.
Moi, j'ai ce qu'il me faut ce matin. Je suis bien dans mes bottes. Je vous fais des gros bisous, Samia. Ça m'a fait plaisir de vous parler.
Même si je ne vous connais pas, je vous fais de gros bisous.
Vérifiez un peu celui qui s'appelle Atmen. Il a les mains qui traînent. Ne laissez pas près de l'étalage.
Je le surveille de près.
C'est pour ça que j'ai appris le micro, d'ailleurs. Il est en train de travailler.
Ah, je ne sais pas comment il a ça dans le sang. Je ne comprends rien. Allez, à tout de suite.
On est en tout cas.
7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Qui revoit là ce matin, c'est Guillaume Villemot.
Bonjour, Edouard.
Guillaume. Guillaume, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu.
On un petit mois.
Que vous... Un mois.
Un petit mois
déjà.
Oui, ça filoche.
Bleu, blanc, zèbre, hein, on rappelle tout ce conglomérat, cette plateforme où il y a beaucoup d'associations, de gens en mouvement qui essayent de quoi on peut dire de faire du bien,
de régler des problèmes
locaux, un par un, ils prennent leur petite part, hein, comme le colibri qui éteint son petit morceau d'incendie. Aujourd'hui, c'est la 300e action vous fêtez.
Ouais.
C'est la 300e association.
C'est la 300e action. Alors, ça peut être une association, ça peut être un élu local, ça peut être une entreprise issue de l'économie sociale et solidaire. Mais là, en l'occurrence, c'est une association qui a été labellisée, entre guillemets, Bleu Blanc Zèbre, la semaine dernière.
L'Institut Télémac.
Exactement. L'Institut Télémac, ils font quelque chose qui est, je trouve, assez extraordinaire. La France a un triste record, c'est celui de l'inégalité scolaire. C'est-à-dire que il y a cette espèce de tampon qu'on a sur le dos, parce que en termes d'échec scolaire, on se rend compte que les enfants de gens issus de milieux plus simples, que ce soit des milieux ouvriers, des milieux de chômeurs, etc., sont des gens qui ont des échecs scolaires mais monstrueux. Et donc, pour lutter contre ça et pour casser cette espèce de systématique aujourd'hui qui existe, ils ont mis en place des programmes avec des parrainages. âge, on peut, vous, moi, les gens qui nous écoutent, s'engager auprès de l'Institut Télémaque et on peut accompagner ces élèves, que ce soit dans le cadre d'un accompagnement qui peut être un accompagnement long, c'est-à-dire que pendant une année, un mois par jour, on va accompagner des jeunes pour les aider en termes de soutien scolaire, en termes de confiance en soi, de les accompagner, parce qu'ils les accompagnent globalement de la sixième jusqu'à la terminale, les aider dans leurs orientations, etc. Et donc ça, c'est une façon de s'engager auprès de l'Institut Télémaque. Et puis, on peut le faire de façon plus légère, par exemple, en allant présenter son métier dans les collèges ou dans les lycées.
Alors, de la sixième à la terminale, concrètement, ça se passe comment ? Je suis un citoyen, n'importe qui, j'appelle l'Institut Télémaque, je dis, je ne le choisis pas, j'imagine, j'ai pas un catalogue de jeunes.
Non, on n'a pas un catalogue de jeunes, mais en revanche, on dit, voilà, j'habite dans tel endroit, je fais tel métier, j'ai telle disponibilité, j'ai par exemple 2 heures à donner, on va pouvoir aller présenter son métier dans un collège. C'est très important aujourd'hui parce que on se rend compte, alors même s'il y a les stages obligatoires en troisième qui existent, ou voire même en quatrième, mais on se rend compte que beaucoup, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à comprendre ce qu'est la vie en dehors de leur quartier. Il y a, par exemple, chez les Zèbres, on a une autre action qui s'appelle Pôle In 49, qui est installée à Angers, qui fait ça et qui accompagne des jeunes de façon à les sortir des quartiers pour qu'ils aillent découvrir des entreprises et donc des métiers. Et ça, c'est très important à faire parce que c'est ce qui va permettre aussi d'ouvrir les jeunes à de nouveaux métiers, à d'autres orientations et pas uniquement au commerce qui est en bas de chez eux ou aux 2-3 entreprises qui sont installées dans leur quartier.
C'est vrai que souvent, la vision du métier qu'on a, c'est combien ça gagne, c'est quoi les horaires, c'est quoi le statut. La réalité des métiers à l'intérieur, on les connaît très mal. Mais dites-moi, ça c'est la partie de venir présenter son métier, mais la partie parrainer quelqu'un, c'est-à-dire... Quelqu'un, dès la sixième, on se dit, bon, j'imagine ses profs sont entrés en contact avec l'Institut Télémaque. On dit, ce gamin, s'il avait quelques heures de soutien en telle ou telle matière, ça marcherait.
Donc, on va lui faire du soutien scolaire. Donc, ça, c'est l'aider à faire ses révisions, etc. Mais surtout, on va l'ouvrir. Là aussi, on va l'accompagner pour lui donner confiance en soi, par exemple. Et là, ça va être un engagement. C'est à peu près 1 à 2 heures par mois. À peu près une journée par mois. Et on va accompagner, donc, sur la durée, cet élève-là. Et on va... c'est toujours à la fois le côté scolaire, l'aider à faire ses devoirs et l'accompagner dans cette démarche-là. Mais c'est aussi le côté, comment je fais pour vous donner une ouverture et comment je vous apporte une vision de ce qu'est le monde. Comment on fait finalement pour me donner confiance en moi? Parce que souvent, ce sont des élèves qui, depuis qu'ils sont rentrés en sixième, on leur dit, de toute façon, t'es nul, tu vas pas t'en sortir, etc. C'est aussi casser cette systématique du système scolaire qui est douloureuse et qui est violente par moments, où on n'est pas dans une logique du, ouais, c'est bien, bravo ce que t'as fait, ce que t'as fait est bien et on peut aller plus loin ensemble. Donc c'est de redonner à ces jeunes une vraie confiance en eux et puis de leur apprendre à aller passer un entretien, même y compris un entretien pour avoir un stage. Ça, c'est important à aussi comprendre que souvent, quand ils arrivent, comme ils n'ont jamais eu de contact avec des entreprises, ils ne savent pas comment on passe un entretien. Et l'autre jour, on était par exemple avec nos Zèbres, on était en Savoie, on a rencontré des jeunes qui vont monter une association pour aider des jeunes à se mettre en condition, j'allais dire presque physique, pour aller passer un entretien. Pourquoi ? Parce que le jeune qui monte ça, un jour il a passé un entretien, il est allé, il avait une chemise qui était trop ouverte, et le type lui dit « Ah ben non, mais attendez, vu la façon dont vous êtes habillé, vous n'allez pas faire l'affaire ». Et donc c'est des petits trucs comme ça qui font qu'on arrive à casser le fatalisme.
Votre principe en fait chez Bleu Blanc Zeb, c'est d'essayer de réparer par des actions individuelles, des face-à-face, des tares de la société, ou en fait vous avez un projet plus global avec des lois que vous aimeriez voir passer ?
Ah, il y a les deux. Il y a clairement le fait... Moi, j'ai un rêve secret qui est de dire remplaçons le principe de précaution par le principe de confiance. Ça pourrait être une vraie loi, parce qu'on a instauré en loi le principe de précaution. Donc si demain, on arrivait à faire ça, ça voudrait dire que tout d'un coup, on va voir quelqu'un et dit « je te fais confiance par principe ». Peut-être qu'on sera déçu, on sera certainement. Il y aura des gens qui sortiront du système. Mais oui, on doit pouvoir arriver à faire ça.
Alors sans rentrer, attention, c'est des macronistes, non, c'est des mélenchonistes, il n'y a pas une proposition comme ça qui est l'idée qu'il y a le droit à l'erreur face à l'administration, une nouvelle loi là qui...
Non, il y a une loi qui a été votée, il y a ça, mais il y a aussi une loi qui a été votée l'année dernière, qui fait que si l'État, la fonction publique ne répond pas à une question qu'on lui pose, on considère qu'elle accepte, on n'est pas obligé, au bout de 3 mois, on considère qu'elle a accepté votre question.
Et non pas le contraire.
Ouais, la seule chose, c'est qu'il y a 6000 exceptions.
Ah oui,
donc il faut d'abord lire, savoir si on est dans le cadre des 6000 exceptions. Alors j'exagère, je crois que c'est que 3000. Il y a 3000 exceptions. Il faut déjà lire un truc qui est épais comme ça et qui est écrit tout petit pour savoir si. Donc il faut simplifier. Il faut, encore une fois, c'est s'il y avait une loi, qu'elle soit mélenchoniste, macroniste, macronienne, je ne sais pas comment on doit dire, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il faut redonner aux gens un signe comme quoi on leur fait confiance. Il y a juste un autre exemple que je voulais juste profiter de ce petit moment ensemble, parce qu'on a fêté notre 300e action, mais on a fêté aussi notre 70e territoire qu'on a célébré. C'est-à-dire que c'est un maire qui a demandé, a levé le doigt en disant « voilà, je vous rejoins ». Et c'est une commune qui s'appelle la Motte-Servolex. D'abord, rien que le nom, je trouvais assez joli.
J'avoue ne pas y être allé.
Non, mais la Motte-Servolex, c'est assez joli. C'est sur les bords du lac du Bourget, en Savoie. Et ils ont mis en place tout un système qui permet de fournir de l'électricité en allant et de l'énergie à zéro coût et à zéro impact négatif sur la planète, en allant piocher de l'eau en profondeur dans le lac. Et donc, ça permet de rafraîchir et de fournir de l'énergie partout. Et le type qui a monté ça s'appelle Luc Bertou. C'est un maire, je trouve, juste extraordinaire. Voilà. Et c'est notre 70e commune avec lequel on a signé.
Merci beaucoup, Guillaume Villemot. Faire confiance, c'est la base de la vie. Je dis donc à ma fille, je te fais confiance, et je le pense.
Merci.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Mais c'est quoi la Paris Beer Week?
La Paris Beer Week, c'est un festival pour une semaine, 5 au 13 mai, qui a but de mettre en avant toutes les brasseries indépendantes.
Alors, fait, à côté des grandes bières, des grands brasseurs, les bières industrielles...
Il y a plein de petits, en fait. Il y a plein de petits qui font des trucs super bons. Et nous, on est là pour les mettre en avant pendant une semaine, évidemment tout au long de l'année, mais particulièrement cette semaine.
Alors, c'est une semaine, c'est comme un salon du vin qui serait consacré à la bière artisanale?
Ouais, c'est surtout plein d'événements dans Paris, dans plein de partenaires, caves, cavistes, restaurants, associations, etc. Et puis, on se finit en beauté au 104, le 13 mai. Avec 75 brasseries où tu pourras goûter pendant toute la journée, plein de bières géniales.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc d'obligatoire, dès qu'on évoque l'alcool, de dire avec modération? Quel est l'intérêt?
Il n'y en a aucun.
La modération, c'est...
D'avoir prévenu de ne pas trop en boire, c'est tout.
Oui, non, mais j'avais compris, Yatmen. Oh là là. Dites-moi, est-ce que les bières, c'est un peu comme le vin? Est-ce qu'il y a des bières de terroir? Est-ce qu'il y a des bières qui ressemblent à l'endroit où elles sont faites?
Ça peut, oui, dans le cas des bières fermières, où là, l'orge peut être cultivée à la ferme, le houblon aussi, et on peut même malter l'orge dans la ferme. Il y en a. Le plus souvent, quand même, c'est des malts qu'on récupère chez des malteries, donc c'est pas forcément de terroir, mais ça peut effectivement, oui.
Alors, il y a un moment, il y avait les bouilleurs de cru. Hein, les gens faisaient des alcools chez eux. Atmen, vous étiez très, très friand.
J'étais sur le coup.
Et il y a maintenant, il y a un peu une mode aussi qui consiste à faire de la bière chez soi.
Oui, bien sûr, ouais, les brasseurs amateurs. C'est de plus en plus important. Hein. C'est une mode qui vient des États-Unis il y a à peu près une dizaine d'années. Et là, en France, c'est le boom total. Il y a des gens qui... tu peux acheter des kits tout faits. Tu peux aller aussi faire des bières... dans des ateliers comme Bruni, par exemple, ou alors, tu te débrouilles à la maison avec ta popote, quoi.
Quel est l'avantage de la bière sur le vin au Nicolas de Superbière dans le 10e? Comme je cite la marque, j'aurais peut-être des cadeaux et le CSA me foutra en tôle.
Tu viens quand tu veux, Edouard.
Et alors, c'est quoi l'avantage? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je supporte pas bien, j'ai des problèmes.
Si, c'est bon, la bière.
Un problème gastrique.
Non, j'aime bien les bières belges d'Abbaye, La Rochefort, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu nous recommanderais ce matin à 9h moins 3?
À 9h, une bière, une session, une bière légère, une session IPA, avec beaucoup de houblon, avec pas mal d'arômes fruités, d'amertume, un truc bien sec pour se réveiller. Ou alors, tu peux prendre un petit stout au café, comme ça fait un peu ton café du matin.
Ouais, un stout, hein, une bière très brune
à 10 degrés,
ça.
Tu vois, il sort de commencer la journée tranquillement. Quoi.
Merci Nicolas pour ces bons conseils. Bonne chance à la Paris Beer Week. Merci
à Stéphane Echer. Vive Stéphane Echer, on n'oublie pas.
Allez. On n'oublie jamais Stéphane Echer, on n'oublie personne, on n'oublie pas les auditeurs, on n'oublie pas les gens qui ont participé à cette émission. Merci à Armel M, blanchi sous le harnais des années animées, à réaliser la fidèle de bois 4h du matin depuis 1936. Il aura vu les premiers congés payés. Merci à Eugénie Poumaillou qui tous les matins réunit tous les intervenants, les appels, qui se fait engueuler, qui sourit, qui est merveilleuse. Merci à Atmen Kelly pour son amitié, à Tito pour sa fidélité. Merci à Jack Souvent pour ce mouvement qui l'entraîne chaque matin à avoir le goût des autres et des gens. Et merci à vous de nous écouter. Nous vous embrassons. À lundi prochain et restez pour les gloires aux 30 glorieuses. Salut les amis.
Salut. Édouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.